Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível, na vossa companhia, neste domingo, dia 27 de julho, última emissão da temporada 2024-2025, e vamos abordar, através de um certo número de entrevistas já difundidas, questões relativas às imigrações, ao racismo, à xenofobia, assim como das nossas origens. Numa altura em que se fala de raças puras, entre aspas, a história dos povos desmenta as teorias que serviram de base ao comércio de escravos, à colonização e, mais tarde, aos regimes fascistas. E começamos com dois livros, precisamente, que falam sobre as emigrações, ponho-no para o aqui em França, focalizados da forma como essas pessoas foram recebidas, enfrentaram o racismo, a exclusão e passou sobretudo para essas populações portuguesas e de outras nacionalidades por viver em bairros da lata. Dois livros, Souvenir da Future Radio, de José Vieira, edição Chandaigne et Lima, e ainda Enfant des Bidonvilles, Une autre histoire des inégalités urbaines, de Margot Delon, La Dispute, edição 2024. Eles estiveram aqui nos nossos estúdios em 2024, precisamente. José Vieira, Margot Delon, avant tout, bonjour, merci d'être sur Radio France, d'être dans les studios.
Bonjour.
José Vieira, Souvenir d'un futur radieux chez Chandaigne. Alors, José Vieira, un livre, alors on est habitué à l'image, on est habitué aux analyses et à cet nombre d'idées qui passent à travers l'image. Qu'est-ce qui vous a pris, ou qu'est-ce qui t'a pris, parce qu'on est depuis longtemps, vous êtes hypocrite, d'écrire un livre?
Bon, j'allais presque dire, c'est une envie qui me vient de l'enfance. J'ai toujours adoré les livres. J'ai toujours eu envie d'écrire un livre, au moins un dans ma vie. Et il y a 2 ans, j'ai commencé à écrire un film, et puis j'ai commencé à écrire le projet. Et je me suis aperçu très vite que ce que j'étais en train d'écrire ne tiendrait jamais dans un film. Donc voilà, c'est devenu un texte. Le film est devenu un texte. C'est comme ça qu'est née l'idée du livre, quoi. C'est-à-dire, on peut dire plein de choses dans les films. Et j'ai senti que là, soit pour raconter ce que j'avais à raconter, notamment l'histoire de mon père, soit je rentrais dans la fiction. Soit j'écrivais, et j'avais aucune envie de faire de la fiction. Ça ne passait pas dans le documentaire, parce qu'il n'y avait pas d'image pour remettre le texte. Donc voilà, c'est parti de là.
Voilà, et en même temps, il y a une histoire qui n'avait pas été racontée jusqu'alors.
Une histoire?
Oui, une histoire, parce que quand on parle de la communauté portugaise, on dit qu'elle est invisible, entre guillemets. Mm. Donc il y a plein de choses à raconter par rapport à ce parcours, par rapport à leur vécu aussi. Mm.
Tu parles de l'histoire de mon père?
Ouais, de ton père, mais également de la communauté portugaise. Il y a plein de choses qui n'ont pas été écrites, n'ont pas été dites.
Ah oui, c'est ça. Ah oui, excusez-moi, je comprenais pas. Je suis peut-être mal réveillé ce matin, mais on a un large déficit de prise de parole quand même. Dans l'immigration, au niveau du cinéma, de la littérature, même des études. Mais je crois qu'en bande dessinée, il y a des choses qui commencent à naître. J'ai encore une bande dessinée qui vient de paraître là, qui s'appelle Brulette, donc Papillon. Mais en littérature, nous sommes extrêmement faibles. Nous n'avons pas vraiment de romans qui racontent cette histoire d'immigration, qui racontent par où nous sommes passés, tout simplement. Et c'est vrai qu'on est un peu... J'ai l'impression qu'on vient du silence et pour l'instant, on reste un peu silencieux, on va dire.
Alors, il y a quelque chose aussi qui est passé, je n'ai pas passé sous silence, dans la mesure où il y a tout un tas de publications, des études qui ont été faites, mais Margot Delon, Enfant des Bidonvilles, une autre histoire des inégalités urbaines. Il s'agit d'une enquête, d'un passé oublié dans plusieurs villes françaises. Et pourtant, c'est assez récent tout ça.
C'est assez récent, mais moi, quand j'ai commencé mon enquête, donc c'était d'abord une thèse de, enfin, un mémoire puis une thèse de sociologie à Nanterre puis à Champigny-sur-Marne. Et en fait, au début des années 2010, on en parlait moins qu'aujourd'hui. Alors, en particulier côté Nanterre, mais bon, côté Champigny, disons que ça avait été, on avait peu d'études, il y avait quelques travaux d'historiens. Mais il me semblait qu'il restait encore à faire une recherche sur les expériences, donc bien comprendre ce qu'avaient été ces expériences du bidonville, et surtout les conséquences que ça avait pu avoir pour les personnes qui avaient passé un certain nombre d'années dans ces lieux de vie.
Votre livre raconte l'histoire des enfants des bidonvilles de l'après-guerre. Alors, 1966, hein, si on peut situer un petit peu les trucs, 75 000 habitants dans les bidonvilles, mine de rien. Justement, vous avez suivi quoi, le parcours de ces jeunes qui ont vécu dans les bidonvilles? Vous avez cherché des témoignages? Comment vous avez travaillé?
Le point de départ, c'était vraiment les enfants. Enfin, ceux que moi j'appelle les enfants, qui quand je les ai rencontrés au cours de cette recherche, avaient entre 40 et 60 ans, mais qui étaient enfants à la période des bidonvilles. L'idée, c'était de reconstituer à partir de leurs souvenirs et la diversité des expériences, et ensuite les parcours, en fait, dire qu'est-ce qu'ils sont devenus une fois que les bidonvilles ont été détruits. Avec un peu l'idée de prendre le contre-pied des scènes d'expulsion auxquelles on assistait et on assiste encore aujourd'hui. Le bulldozer arrive, les baraques sont détruites et on ne sait pas ce que deviennent les habitants. Comme là, il y avait un peu de profondeur temporelle, il me semblait que c'était intéressant pour comprendre comment les inégalités se fabriquent et comment elles se reproduisent ou ne se reproduisent pas toujours exactement de la même manière sur le long terme. Et en plus de ces récits, donc qui étaient des entretiens approfondis avec des personnes que j'ai vues parfois une fois, parfois deux, parfois un peu plus. L'idée, c'était de les suivre dans différents contextes. Bon, il se trouve qu'il y a eu des manifestations à visée mémorielle sur mes deux terrains d'enquête. Et donc, c'est des choses que j'ai observées. J'ai aussi parfois accompagné les personnes, je sais pas, dans des cafés, entre eux, en famille, etc. Et ça a été complété en partie par un travail d'archives, départementales du Val-de-Marne et à celle de Champigny, puis par un travail d'analyse statistique pour avoir un peu des données de cadrage plus générales sur ces populations en France.
Alors, dans votre introduction, c'est page 7, vous citez José Vieira, comme par hasard. Alors, José Vieira, l'enfant qui part ne sait pas où il va, il pleure de se perdre, alors il sort la tête par la fenêtre du train et chantonne une jolie ritournelle. Donc, t'es arrivé en 1967, ici à Paris, t'étais petit. Une chose est certaine, c'est que bon, il y a plein de choses qui t'ont marqué. Parce que bon, t'as débarqué, c'est le cas de le dire, au bidonville de Massy, avec tout ce que cela implique. Alors, il y a des images qui sont restées ou pas trop. On va y revenir après par rapport à la mémoire, parce que j'ai l'impression que la mémoire par rapport à tout ça chez toi, elle est un petit peu floue. Je sais pas si ça correspond à une réalité.
Oui, de toute façon, alors, c'est la mémoire, c'est une construction. On en parlait tout à l'heure avec Margot. C'est une construction. Ça dépend à quel moment de ta vie tu es. Par exemple, moi, c'est vers la quarantaine que je me suis intéressé à mon enfance, par exemple. Et je pense que c'est quand même le cas de beaucoup de gens. Et commence à venir des images, et ces images sont construites à partir de ce que je vis aujourd'hui, comment je vois la réalité aussi de l'immigration aujourd'hui, aussi du travail que j'ai pu faire dans les bidonvilles avec les Roms. Donc je regarde ce passé aussi à travers ce qui se passe aujourd'hui, quoi. C'est une mémoire qui est extrêmement floue. Ça se travaille, la mémoire aussi, ça se construit. Et c'est ça que j'essaye de faire dans un des textes, notamment sur le bidonville, qui s'appelle Une saison dans la boue, où j'essaye de me souvenir d'un certain nombre de choses qui étaient très dures, mais aussi des moments où j'étais un enfant insouciant qui jouait et pour qui le bidonville et ce qu'il y avait autour du bidonville, les terrains vagues, c'était des terrains de jeu. Magnifique aussi. Donc je dirais juste que ma sœur, qui moi j'avais entre 7 et 12 ans, ma sœur qui avait 15 ans, elle a pas du tout les mêmes souvenirs que moi, parce qu'elle pouvait pas sortir de la baraque. C'est-à-dire qu'elle était des filles étaient à ce moment-là enfermées parce que les parents avaient peur. Donc on n'a pas à quelques années près les filles et les garçons, on n'a pas du tout les mêmes souvenirs. C'est important aussi de dire ça.
Alors, il y a quelque chose d'important, je fais une petite parenthèse par rapport à vos livres, c'est que ça, c'est une question taboue, parce qu'on sait qu'il y a eu des viols dans les bidonvilles. Et ça, ça fait des années que j'essaie de travailler dessus, d'avoir des témoignages des femmes, c'est difficile. Je pense que, ça c'est quelque chose, à creuser, parce que, pourquoi c'est une question taboue, tout ce qui se passait dans le bidonville, Margot?
Là, il va y avoir une question de source, effectivement. Enfin, c'est des choses qui sont sans doute probablement arrivées, mais dont on n'a pas, donc, en termes d'archives, sans doute qu'il n'y a pas de traces qui ont, ou très peu. Enfin, il faudrait regarder plus précisément les archives, peut-être policières, mais à mon avis, enfin, vu la difficulté, même aujourd'hui, qu'on a à avoir des données sur ces choses-là, je pense qu'à l'époque, c'était encore plus compliqué. Et dans les récits, des familles, c'est déjà une période qui était assez stigmatisante. Alors, peut-être que, peut-être qu'il y a des endroits où on en parle, ça vaudrait le coup de chercher, mais disons, on parle d'un événement à portée de traumatique dans un contexte de vie difficile, donc c'est une double raison de ne pas en parler, quoi, il me semble. Mais je n'ai pas encore pas rencontré.
Alors, il y a quelque chose qui est commun aussi, il y a plein de choses communes dans vos livres, c'est l'enjeu et le contexte politique. Le Portugal, il y a la guerre coloniale. Finalement, la guerre coloniale, c'est ça que ça a fait démarrer tout un tas de choses. Là, quand on parle souvent d'immigration économique, mais en réalité, c'était l'immigration politique. Et ça, on dirait que la guerre coloniale, ça a été une importance énorme, mais ça a été un petit peu mis de côté. Mmh. Et dans ton livre, justement, tu insistes là-dessus, l'importance de la guerre coloniale, et le fait de l'immigration et tout ce que ça a impliqué pour ceux qui sont partis.
La guerre coloniale commence en 61, l'immigration démarre vraiment entre 61 et 63, donc il n'y a pas de hasard là. Mmh. Et puis, c'est important parce que c'est une immigration, mais au-delà de l'immigration, c'est un exode. C'est un million et quelques de personnes qui vont partir en 15 ans, quoi, du Portugal. Donc, c'est forcément un acte politique, même si les gens individuellement vont dire « Ouais, moi je suis parti parce que j'avais envie d'entrevoir un avenir pour mes enfants » ou « c'est un peu la misère, ça commence à devenir compliqué ». Mais quand on regarde l'histoire, quand on observe l'histoire, on s'aperçoit que c'était un énorme exode et que cet exode, il est forcément politique. C'est dire non à un régime, même si les gens n'étaient pas encore... Mon père n'était pas un opposant à Salazar, quoi. Il n'était pas d'accord avec le régime, mais il ne se déclarait pas comme opposant. Il affrontait pas la police politique ou les gens du régime. Mais il va partir, il sait très bien, et il sait parfaitement bien que c'est un acte politique, même s'il ne va pas le dire. Les immigrés vont dire, j'ai fait un acte politique, je suis parti. On a quand même appelé ça un plébiscite par les pieds contre le régime de Salazar. C'est Albano Cordeiro qui a employé cette expression-là. Et je trouve que c'est important de remettre ça dans un contexte politique. Et il faut et aussi rappeler que l'immigration portugaise est une immigration hautement politique dans la mesure où il y a eu des gens qui ont déserté l'armée. Directement, là, je parle, il y a des gens qui sont venus pour ne pas aller en prison ou parce qu'ils étaient allés en prison. Donc il y a énormément d'opposants politiques qui sont venus en France et des gens qui se sont réfugiés ici pour ne pas aller à la guerre.
Question d'héritage, Margot Delon, en filigrane. Il y a aussi la guerre d'Algérie, il y a tant d'autres tas de choses derrière l'immigration.
Oui, du coup, pour moi, c'était vraiment intéressant d'avoir ces deux histoires contemporaines, à l'époque, mais aussi aujourd'hui, pour voir comment les mémoires se construisaient. La guerre d'Algérie, sur le vécu et sur la forme des bidonvilles, en fait, a un impact énorme, au moins à Nanterre. Un truc qui m'a surprise quand j'ai commencé l'enquête à Champigny, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient « Non, mais chez moi, c'était pas un bidonville, c'était plus construit, etc. » Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les archives. L'idée que les deux bidonvilles auraient été différents en raison des caractéristiques des populations qui les habitaient. Donc, algériens, principalement algériens à Nanterre, et principalement algériens à Champigny.
Portugais à Champigny.
Et du coup, donc il y a plein de raisons qui expliquent ces formes et ces expériences différentes, mais notamment le fait qu'à Nanterre, les baraques étaient vraiment, en tout cas pendant la période de la guerre d'Algérie, surveillées d'extrêmement près par la préfecture, par la brigade Z, qui interdisait toute nouvelle construction. Et du coup, on avait un niveau de précarité et de surpeuplement qui a été vraiment très très fort au tournant des années 60.
Précarité, justement, parce que bon, c'est abordé ce thème-là dans vos deux livres. Précarité tout court, question de logement. Et Xavier, je me souviens maintenant de ton DVD, Le bâton en carton. C'est-à-dire les bidonvilles des années 60. Aujourd'hui, on est entouré de bidonvilles qu'on ne voyait pas. Et ça, il y a ton voyage que tu as fait à Hendaye, on va y revenir. Mais justement, il y a quelque chose qui perdure depuis des décennies, c'est la précarité. C'est pas pour le jeune, pour rien qu'aujourd'hui, pour l'une d'habitation, il est énorme. L'un et l'autre, comment on peut finalement lier ce qui se passait dans les années 60 et les bidonvilles, et aujourd'hui, Margot?
Peut-être déjà souligner que, en fait, le problème de l'habitat précaire dans les années 60, il était beaucoup plus massif. Et pourtant, des solutions politiques, alors avec plein de limites, hein, c'est pas pour dire qu'il faut refaire des cités de transit ou ce genre de choses. Mais en tout cas, il y avait une ambition politique d'investir dans le relogement, même dans la scolarisation des enfants, qui a plus du tout aujourd'hui, en dépit du fait qu'on est sur des chiffres quand même plus inférieurs. Il faut aussi, je pense, prendre en compte la continuité de la stigmatisation et de la ségrégation, dans la mesure où on aurait pu penser, et ça je trouve que c'est un truc qu'on voit beaucoup dans tes documentaires et dans ton livre, José, c'est que finalement il y a une continuité d'un regard vraiment méprisant et raciste sur les habitants, à tel point qu'on est parfois troublé par la superposition des discours en disant, bah, est-ce que finalement, on se souvient d'un futur radieux, est-ce qu'on est en train de parler des Roms, est-ce qu'on est en train de parler des Portugais? Et je trouve que ça aide à prendre quand même de la distance avec ce qu'on voit aujourd'hui, de savoir que c'est une histoire qui s'est déjà passée. Bon, c'est un côté désespérant, mais ça permet aussi d'avoir une distance critique qui peut-être peut transformer un peu la manière de se mobiliser et d'envisager ces questions.
Moi, je pense toujours à cette idée que les gens... quand j'ai tourné à Massy, donc là où j'avais habité, Zombies dans la ville des Roms, je voyais bien le regard méprisant que les gens avaient sur les Roms. Et je me revoyais 40 ans en arrière, et je me disais, les gens qui habitaient les bâtiments, qui devaient voir le bidonville de loin, ils disaient, mais avec ces gens-là, on ne pourra jamais rien faire. Regardez, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? C'est ce que disaient les voisins des bidonvilles. Mais il ferait mieux de rester chez eux que de venir ici vivre dans telles conditions. Et donc les gens avaient, à cette époque-là, avaient un regard méprisant sur les bidonvilles, le même regard qu'aujourd'hui, quoi. La figure du voisin du bidonville est extrêmement importante pour comprendre que finalement, les regards, c'est pratiquement les mêmes mots, en fait. On est dans les mêmes mots. La gestion des bidonvilles par les municipalités est la même. C'est-à-dire qu'on nous a laissé, nous, pendant 2 ans, sans eau, sans un robinet d'eau. Voilà. Et on a fait pareil au Rhum, je veux dire. Donc, il y a quand même des superpositions. Alors, évidemment, la situation n'est pas la même. On a un petit peu moins besoin de main-d'œuvre et on a été mieux tolérés. Les bidonvilles ont été mieux tolérés à l'époque que maintenant. C'est clair.
Quand on est jeune dans un bidonville, José, on a honte. On ne dit pas où on habite. Parce que, bon, là, on sent dans le cœur, on sent inférieur aux autres, on sent quoi? Mais tout ça, quand on va à l'école...
Bon, on n'est pas bien, quoi. On n'est pas carrément pas bien, parce que on est obligé d'être tout le temps dans le mensonge. Et moi, j'étais obligé... Enfin, à l'école, personne ne savait que j'habitais au bidonville, quoi. Et c'est pas facile à cacher, parce que on y habite, et puis que généralement, on va vers cet endroit-là. Mais heureusement, le bidonville était isolé. Donc, personne ne me suivait. J'ai pas été démasqué. Voilà, donc pendant toutes ces années, j'ai tenu bon. Et alors qu'il aurait été tellement simple de dire, voilà, j'habite dans un bidonville, c'est injuste, c'est pas normal. Évidemment, t'es un enfant, tu penses pas du tout comme ça, tu veux juste cacher les choses, quoi. Et puis, bah, ça donne... Je ne mesure pas encore les conséquences que ça a eu sur moi, mais et sur les gens qui sont passés comme moi par là, mais c'est dur.
Mais finalement, un immigré, c'est quoi? C'est un sous-homme, une sous-femme, c'est quoi au juste? Bon, c'est juste une bête de somme pour travailler, Margot?
Bon, du point de vue des employeurs et des hauts fonctionnaires, c'est assez net. Enfin, effectivement, les archives, les documents qu'on a sur cette époque, mais qu'on même encore aujourd'hui, il y a une espèce de cynisme dans la manière de traiter des personnes qui ont une histoire de vie complexe, pleine, avec des espérances. Enfin, c'est vraiment une déshumanisation qu'on trouvait à l'époque et qu'on retrouve encore aujourd'hui, oui.
Bien entendu, les jeunes qui sont passés par les bidonvilles, ils ont eu des enfants. Et dans ton livre, José, tu parles d'un voyage que tu as fait avec ta fille, Handaï. Et tu as fait les quais. Et tu as essayé d'expliquer à ta fille un certain nombre de choses. Et tu dis, entre autres choses, un tiers des Français a au moins un grand-parent qui a dû quitter pour se faire une vie en France. Tu en fais partie. Bon, plus loin, la page suivante, hein, je lis ça. Laissons à d'autres l'aveuglement d'enfermer leur passé d'immigration dans un cercueil et de leur dénier le droit de chercher une vie meilleure. Faisons de notre mémoire un lieu ouvert, un lieu incommun où les exodes du présent interrogent une histoire que refusent de se taire.
C'est très simple. Si on est passé par une histoire, on a réfléchi. Je viens de l'immigration portugaise, de l'exode portugais. Si on a réfléchi un peu comment s'est passé cet exode et comment finalement on n'a pas été si bien accueilli que ça, puisque on a notamment habité les bidonvilles. Quand on réfléchit à cette histoire, comment on peut fermer la porte aujourd'hui aux autres immigrations qui arrivent pour les mêmes raisons, parce qu'ils fuient la guerre, parce que ils cherchent un avenir, tout simplement, ils fuient la misère. Comment on a bien compris pourquoi on est là finalement, pourquoi on n'est pas resté au Portugal ou en Algérie ou en Espagne ou en Italie. Je pense à l'Italie notamment parce qu'il y a des gens aujourd'hui d'extrême droite qui viennent. Qui sont ici d'immigration italienne, malheureusement. Comment, une fois qu'on a réfléchi à ça, comment on peut, je comprends pas, moi, comment on peut fermer la porte à ceux qui arrivent aujourd'hui? On peut ne pas être hospitalier avec ces gens-là. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible, quoi. Donc voilà, c'est simplement, les histoires qui refusent de se taire, c'est ça. C'est simplement de dire, les gens, ils arrivent pour même les raisons que nous sommes venus. Et pourquoi aujourd'hui, on les accueillerait pas?
Je vais commencer par la mémoire et, malgré tout ce que vous dites, à la fin de votre introduction, le livre se conclut sur les enjeux mémoriels et politiques d'une telle histoire. Il s'agit de comprendre pourquoi tous les enfants ne se souviennent pas de la même façon de leur passé dans les bidonvilles quand parfois le silence dans le règne le silence dans les familles. D'autres font de la mémoire une ressource politique et un instrument de lutte contre les inégalités contemporaines. On revient aujourd'hui justement. Alors, José vient parler des immigrés d'origine italienne. Bon, leurs parents, ils sont brillants probablement, mais enfin, justement, la mémoire et les enjeux contemporains.
Bon, c'est sûr que ça fait directement écho à ce que vient de dire José, et ça fait aussi écho à d'autres témoignages, mais manières de se positionner, que j'avais recueillis, notamment à Nanterre. Je pense à un enquêté, à Kim, qui a l'une des trajectoires les plus marquées par les inégalités dans les bidonvilles, par les difficultés, et qui en fait est de toutes les luttes, comme il dit. Enfin, dis-moi, c'est plus fort que moi. Quand il y a un truc qui me... Même si ça me regarde pas, quand il y a un truc qui va pas, j'y vais, il était syndiqué, etc. Et l'idée avec le livre, c'était vraiment d'essayer de comprendre d'où ça vient et en quoi l'expérience de bidonville peut aussi, dans certaines conditions, constituer une matrice, ou en tout cas une voie vers la politisation, c'est-à-dire des rencontres, mais ça tient aussi à une... Et ça, je pense que tu l'as un peu dit aussi, ça tient aussi à une sorte de réflexivité, en fait. On revient sur son passé, on y pense d'une certaine manière, on digère l'expérience et on en fait une ressource pour se mobiliser. Cette réflexivité, elle vient pas non plus dans n'importe quelle condition. Je pense qu'il y a aussi, et ça répond un peu à ton interrogation finale, il y a aussi des conditions dans lesquelles c'est plus difficile ou plus contraint, en tout cas, d'en faire une ressource politique. Côté, en tout cas, moi, les personnes que j'ai rencontrées à Champigny, pour une grande part d'entre elles, c'était pas un positionnement nécessairement qui était là, mais aussi parce que ça aurait été aller contre l'image de l'immigré modèle que, et localement et nationalement, on leur faisait un peu sentir. C'était, vous êtes intégré, vous êtes pas comme les autres, vous êtes pas comme ceux du Bois Labbé. Donc finalement, il y avait comme une catégorie dans laquelle on a aussi, dans le sens la société française, une forme de racisme bien ancrée, a aussi poussé les Portugais à entrer, et c'est compliqué d'en sortir, en tout cas il y a une pénalité. Donc il y a aussi, je pense, une forme de se conformer à ce qui est attendu du groupe pour éviter d'être stigmatisé comme les Algériens ou comme d'autres formes d'immigration coloniale et postcoloniale.
Alors il y avait le mythe du retour, je me souviens encore quand je suis arrivé, les Portugais avec qui je travaillais, oui je vais rester les 4-5 ans et après je rentre au pays. Bon, ils sont toujours là. Par rapport à l'immigration portugaise, on va parler avec José, mais ça concerne les autres immigrations, vous avez étudié bon, les Algériens, etc. J'ai l'impression qu'il y a ces deux positions complètement différentes les uns des autres, parce qu'ils ont même, ils ont pas la même histoire, parce que les Algériens, par exemple, ils avaient une histoire commune avec la France. Donc je pense qu'il y a deux points de vue et il y a deux façons différentes d'envisager un retour.
Après, sur le... Alors moi, j'ai pas travaillé spécifiquement pour le retour, mais j'ai une collègue, Jennifer Bidet, qui a travaillé sur les maisons et sur les vacances, ce qu'elle appelle les vacances au bled. C'est un livre super qui est sorti il y a pas longtemps. Et il y a quand même un attachement fort à l'Algérie qu'il faut pas... Voilà, moi, c'était pas au centre de l'histoire que j'ai étudié, donc j'en ai peu parlé, mais il y a aussi un attachement très fort qui passe par la maison, par les vacances, mais
rentrer en bled, comme on dit.
Voilà, mais il y avait, c'était pas non plus le même rapport et à la langue et aux institutions, donc sans doute que ça a pris des formes différentes.
José, on n'a pas évoqué ton père dépassé pour les événements. quand il y a une mai 68, oh bonjour, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Finalement, le forgeron a été un petit peu perdu. Alors, dépassé aussi par les enfants, parce que les enfants, entre-temps, ils ont grandi, le pays d'origine, qu'est-ce que c'est pas. La mère a vécu le retour au pays, mais attention, bon, l'émancipation, mine de rien, avec ses filles et avec vous, les enfants, comme femmes, s'étaient émancipés, et le mythe du retour. Le pays d'origine, c'est l'île des absents. Parce que finalement, l'immigration, faut pas oublier, par l'essentiel, c'est un exil. Qu'on voyait pas avec tout ce que cela implique.
Oui, mais au début de l'immigration, on a besoin de croire que c'est pas comme ça. Parce que je pense qu'en fait, c'est assez simple et en même temps très compliqué. C'est-à-dire que quand on débarque, bah, on n'est pas bien parce qu'on est, il faut tout refaire à zéro. On a tout perdu et on n'a encore rien trouvé. Donc, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Et se raccrocher à quelque chose, c'est un mythe qui traverse tous les exils du monde entier, dans le monde entier, qui est le retour de là où on est parti, quoi. Voilà. Et nous, au début, bon, on s'est raccroché à ça, on y a cru, on y a vraiment cru, moi le premier, enfin adolescent, c'était merveilleux, le Portugal était un pays merveilleux. Bon, on en revient assez vite après, quand on devient adulte, mais je pense que fondamentalement, c'est un besoin que tous les exilés, tous les immigrés ont besoin de croire que le pays qu'ils ont quitté devient une terre promise.
Oui, et d'ailleurs, tu racontes dans ton livre, ta sœur, qui avait 16 ans à l'époque, elle est retournée au village. Alors, elle était complètement, elle dit, mais qu'est-ce que je fais là? Donc, elle était complètement dépaysée, c'est le cas de le dire. On part d'un pays d'où on ne revient jamais. Tout a changé. Et nous aussi, on est où? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Ça nous questionne, qu'on veuille ou pas.
Oui, c'est l'idée que... Enfin, tu parlais de ma sœur, elle prend conscience de ça, c'est-à-dire qu'elle vit ici, elle trouve une certaine liberté, et parce que quand on part, on est sous le coup de la propagande, on est conscient de rien, on est des petits fascistes, on va dire, pour simplifier les choses, des gens qui pensons comme ça que tout va bien, que on vit dans le meilleur des mondes, que Salazar est le chef, etc., etc. Et on débarque ici, on s'aperçoit qu'il y a quand même le monde est différent, que notre petit pays là, c'est un truc très très bizarre. Et donc quand on y retourne, en ayant vécu quelques années ici, on s'aperçoit que finalement c'est une prison à ciel ouvert, finalement le pays. Et donc et ma sœur prend conscience de ça, par exemple. Et ça, ça a été le début de la fin de la propagande sur nous, quoi, par exemple, dans notre famille, quoi. Et ça, c'est extrêmement important qu'elle ait eu cette prise de conscience-là, quoi.
De ce titre de votre livre, Margot Delon, une autre histoire des inégalités urbaines.
Ben, c'est l'idée de, peut-être encore une fois, de pas de faire une généalogie, mais en fait, on fait face à un certain nombre de questions contemporaines. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin dans le temps. La première version de l'introduction, en fait, je l'avais écrit en référence au film de José Vieira sur Paul Assonnière d'un futur à deux, donc la résurgence des bidonvilles, et notamment des bidonvilles roms. Et en fait, en juillet, il s'est passé ce qui s'est passé à Nanterre, la mort de Naël, etc. Donc en fait, ce qui est terrible avec la question des inégalités urbaines, c'est que j'aurais pu écrire 40 introductions différentes qui auraient eu 10 sens. Donc les dépopulations toujours stigmatisées, ou des nouveaux arrivants stigmatisés, des quartiers dans lesquels les difficultés se reproduisent, exclus. Et l'idée, c'était du coup de faire un pas de côté par rapport à ces questions contemporaines qu'on aborde souvent mal, d'ailleurs, aujourd'hui, avec des discours à côté de la plaque ou stigmatisants, et de voir un peu sur la longue durée comment elles se constituent et qu'est-ce que des histoires comme celle des bidonvilles des années 60 peuvent nous dire des trajectoires, des groupes et des lieux contemporains.
Tout à l'heure, Javier a parlé d'extrême droite en France, des gens d'origine italienne et autres. Et comme par hasard, à chaque fois que...
Je ne veux pas stigmatiser les gens d'origine italienne.
Non, non, absolument pas. Non. aussi, quand on voit voir le nombre de Portugais candidats qui ont été élus à l'extrême droite, hein, il y a des dizaines. Hein, donc, sans oublier une blonde oxygénée qui, à un moment donné, faisait partie de la campagne de M. Le Pen. Bon, enfin, passons. C'est montré à la télé dans une vidéo de campagne électorale. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ces années-là, les années 60, 70, il y a eu une stigmatisation de l'immigration, les bidonvilles, voilà, les immigrés, etc. Finalement, aujourd'hui, 40 ans après, 50 ans après, est-ce que cette problématique politique, le logement, les immigrés, est-ce qu'on se retrouve finalement, c'est d'autres nationalités, mais est-ce que ce problème-là n'est pas d'actualité?
Si, complètement. Alors c'est d'autres contextes. Je pense que la question aussi du marché de l'emploi n'est pas du tout la même. Effectivement, à l'époque, il y avait un besoin de main-d'œuvre fort, et du coup, il n'y avait pas le même rapport à l'immigration, notamment portugaise. Il y avait aussi une autre manière de traiter les bidonvilles, le fait que les bidonvilles roms ou les bidonvilles peuplés par ce qu'on appelle maintenant les exilés soient détruits aussi rapidement. Alors c'est pas pour dire qu'il faut laisser des bidonvilles s'enliser comme on l'a fait dans les années 60, mais en tout cas il y avait une forme de stabilité résidentielle à Nanterre comme à Champigny qui ont malgré tout favorisé des trajectoires, alors pas d'intégration, mais en tout cas d'attachement au lieu, du fait que les gens se sentaient partis de la ville. Et c'est vrai, quand on voit la fréquence et la rapidité avec laquelle sont détruits les bidonvilles, je pense que d'une certaine manière, ce sera beaucoup plus dur pour les enfants des bidonvilles contemporains. Mais il faudra l'étudier.
Parce que je pose la question, Xavier, hier, il y a eu deux manifs à Porto, au nord du Portugal. Une contre le fascisme, l'autre organisé par une association 1143, apparemment ce serait la date de création du royaume du Portugal. Bon, c'est pas tout à fait vrai du point de vue historique, mais ça n'empêche que la manif d'extrême droite, c'était contre les immigrés pour défendre l'habitation. Ça s'est passé hier à Porto, donc on y revient, ce que tu disais tout à l'heure.
Ben oui, on y est. Je veux dire, je pense qu'on c'est pas, oui, au Portugal et en Europe en ce moment, on a un populisme d'extrême droite qui est en train de monter, et en Italie, en Hongrie, et il risque de repasser aux États-Unis. On vit une mauvaise période là. Mais qui n'est pas spécifique au Portugal. Moi, je suis évidemment très touché par ce qui se passe et par le fait que l'extrême droite est près de 20% des voix au Portugal. Voilà, il va falloir se battre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Bon, alors, ton livre, j'ai vu, Le souvenir d'un futur adieu, fait partie d'une nouvelle collection de littérature des éditions Chandaigne, Bruit de frontières. Mylène Contival, bonjour.
Bonjour.
Mylène Contival, merci d'être en direct avec nous. Vous avez la responsabilité avec Anne-Marie Tourche de cette nouvelle collection. Concrètement, pourquoi avoir créé cette collection?
Déjà, merci de nous donner la parole et de nous inviter. Oui, en effet, c'est Anne Lima, donc, qui a fondé les éditions Chandaigne en 88, aux côtés de Michel Chandaigne, qui nous a donné cette responsabilité avec Anna Maria Torres. Les éditions Chandaigne, vous le savez, on est spécialisé dans le monde de langue portugaise. On publie énormément de textes de littérature, et en littérature, on travaille la plupart du temps, en fait, avec des traductions. Et l'idée, en fait, des éditions, c'est explorer le monde lusophone, donc en littérature, aussi en histoire, et les différents pays, donc Portugal, Brésil, Angola, Mozambique. Et en fait, il y a quand même un lien qui est indéniable entre la France et le Portugal, et on avait envie d'explorer ce qui se passait un peu de ce côté-là en littérature, mais du coup, c'est souvent des gens qui sont installés en France depuis longtemps, voire depuis toujours, et donc qui vont s'exprimer en français et écrire en français. Donc c'était en fait l'idée de cette collection, c'est de continuer l'exploration du monde lusophone, mais en français, parce que cette partie-là existe aussi dans la société française et dans le panorama aussi littéraire.
Alors, Mylène Contival, il y a quand même des mots qui pèsent, hein, qui ont son importance. Je cite. Donc, cette collection, à savoir Brûle les frontières, c'est un espace littéraire et poétique qui permettra de brûler les frontières, de montrer des réalités subtiles, sensibles, loin des clichés crasseux et médiocres qui collent encore à la peau des communautés issues des migrations luso ou étrangères plus généralement. Hein, c'est ouais. Du lourd, hein, Mylène Contival. Je passe l'expression.
Oui, c'est vrai que on se rend compte qu'on est en 2024 et on est toujours autour des mêmes blagues et on est toujours autour d'une connaissance qui reste très superficielle et qui rentre en complète contradiction justement avec le lien historique entre la France et le Portugal. Et on pense que, alors il existe des livres, hein, tout de même, des témoignages, dernièrement des livres d'histoire aussi qui traitent de cette question-là, de l'immigration portugaise, là, pour le coup, en France. En littérature, il en existe aussi, mais peu, finalement. Et il y a le texte d'Anna Maria Torres, donc Terra Fria, qui existe, qui a été publié en 2021. Il y a un très beau texte qui s'appelle Le Poulailler de Carlos Batista, mais qui n'est plus disponible à la vente. Et voilà, et en fait, avec la littérature, on se disait, la littérature, ça permet à une voix, à une singularité de s'exprimer. Et donc, au lecteur d'expérimenter une situation et d'avoir peut-être plus d'empathie avec cette situation et avec le personnage, avec ce qui est raconté. Et c'est de renforcer ce lien pour lutter, pour dénoncer, pour mieux comprendre notre histoire et surtout aussi dire que donc c'est la littérature française, c'est écrit en français, le texte de José est écrit en français, enfin que donc la France, la littérature française, c'est aussi des gens qui sortent de doubles, de plusieurs cultures, qui ont une histoire qui est composée d'éléments, enfin qui est hybride, quoi. Et c'est pas du pur souche, quoi. Et ça, je pense qu'il est temps de l'accepter, de le montrer. Et notre collection, on a envie d'ouvrir cet espace-là.
Javier, une réaction à tout ce que tu viens d'entendre. Oui, je le réveille.
Non, j'ai écouté religieusement Mylène. Qu'est-ce que je pourrais dire que moi je pense que il y a un truc extrêmement important, c'est les clichés qui continuent, quoi, qui perdurent. Moi je l'ai, enfin dans le boulot que j'ai fait de réalisateur de documentaire, je l'ai vraiment senti, quoi. Et je pense qu'il faut vraiment s'attaquer à ces clichés là, quoi, parce que c'est des blagues et tout, mais c'est quand même des fois, ça devient, c'est un peu lourdingue, quoi. C'est un peu lourdingue ce qui se passe des fois. Et Fernando Pessoa disait une chose, il disait ce que l'étranger connaît du Portugal aussi entre le rien et l'erreur. Et c'est vrai que au fond, je m'aperçois de plus en plus que, enfin, ça fait, c'est pas une prise de conscience d'aujourd'hui, hein, mais que, ben, en France, on connaît très peu de choses sur le Portugal, sur l'histoire du Portugal. Qui sait qui est en France, si vous faites une enquête dans la rue, c'est qui est Salazar? Qu'est-ce qu'il représente au Portugal? Enfin, c'est 48 ans de fascisme et tout ça. Et on ne sait rien sur le. On sait. Et pourtant, on est nombreux à être là. Enfin, des gens issus de l'immigration portugaise, il y a 1 million et quelques personnes, et on ne sait rien sur le Portugal. Et en plus, on est surtaxé. Déjà de maçon et de concierge, ça c'est évident, mais il n'y a pas de déshonneur à être maçon et concierge. On ne l'est pas tous. Voilà, et il y a tout ça qui nous colle à la peau, comme si on n'avait pas d'histoire, qu'on n'avait rien à dire, et ça me gonfle vraiment de plus en plus, et des fois je viens même un peu violent au niveau du verbe, on va dire, parce que ras-le-bol d'être pris pour des cons, quoi. Voilà la vérité, c'est ça. La vérité, c'est qu'on est pris pour portugais, c'est le brave type, le brave paysan, le brave pecno qui a rien à dire, quoi, qui a pas d'histoire. Voilà. Je suis un peu énervé.
Les choses sont dites, et bien dites. Bon, je donne mon opinion, mais enfin, c'est comme ça. Mylène, merci, et un grand bonjour aussi à Anna Maria Torres. Merci bien.
Oui.
Et merci à Javier, et merci également à Margot Delon, la Margot Delon. Enfant de bidonville, une autre histoire des inégalités urbaines chez La Dispute. Et Javier, bien entendu, souvenir d'un futur radieux. Déjà le titre, bon, ça, c'est Javier. Vraiment, c'est lui, c'est un titre à lui, plus personne aurait pu trouver un titre pareil. Merci d'être venu. Alors Margot, parce que vous dites, bon, finalement, dans votre livre, voir une histoire aux multiples ramifications contemporaines, on a intérêt de le lire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
En tout cas, l'idée, c'était vraiment de rendre accessibles les résultats d'une recherche longue, en travaillant beaucoup l'écriture. L'idée, c'était que des anciens enquêtés, des personnes que j'avais rencontrées puissent le lire, que des étudiants, des lycéens puissent aussi se l'approprier, des profs, des travailleurs sociaux. Voilà, donc c'est que ça circule, parce que je pense que ça peut nous dire aussi beaucoup de choses de la situation contemporaine. Il y a un aspect qu'on n'a peut-être pas abordé sur le... Et ça rejoint un peu la discussion que vous aviez avec Mylène aussi sur le poids des clichés, des stéréotypes. Et on en parlait avec José avant de commencer l'émission, le fait que sur il y a une énigme statistique qui est que les trajectoires scolaires et professionnelles des personnes d'origine algérienne et marocaine est beaucoup plus diversifiée que les personnes d'origine portugaise. Donc ça s'explique et par des aspirations familiales qui sont pas exactement les mêmes, ça s'explique par des clichés qui ont la peau dure et qui parfois peuvent orienter aussi des destins scolaires vers certains secteurs en particulier, mais ça s'explique aussi par des rencontres avec des bénévoles, avec des militants qui sont beaucoup allés à Nanterre pendant la guerre d'Algérie, mais aussi après, et qui ont finalement permis aux enfants de certaines familles de connaître des ascensions sociales par l'école qu'on n'observe pas du tout à Champigny. Et je pense que ce truc-là, l'idée de dire, bah, sur le long terme, il y a des effets à la rencontre avec des bénévoles, des militants, donc même si quand on s'engage auprès des habitants des bidonvilles contemporains, c'est dur parce que c'est détruit l'un après l'autre. En fait, je pense qu'il y a sur le long terme, on voit des choses, quoi. Donc c'était aussi un peu un mini message d'espoir à délivrer auprès de toutes celles et ceux qui luttent aujourd'hui auprès des familles, c'est qu'en fait, ça donne des effets, quoi.
C'est un rayon de soleil.
Je voulais dire un truc, c'est extrêmement important de lire le livre Enfants des bidonvilles, parce que le fait que Margot mette en parallèle l'histoire du bidonville d'Anterre, où il y avait plus d'Algériens, et le bidonville de Champigny, où il y avait essentiellement c'est un bidonville portugais, d'abord c'est passionnant de faire cette histoire croisée, et puis ça nous permet à nous, issus de l'immigration portugaise, de réfléchir à notre positionnement aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans l'immigration. Voilà, je pense que ça fait réfléchir en tout cas. Moi, ça m'a beaucoup interpellé quand même.
Merci à tous les deux d'être venus un dimanche en plus et un transport en commun. Galère.
Merci.
Margot, merci également, José.
E ouvimos precisamente José Vieira e ainda Margot Delon, sem esquecer de Milena Contival, dois livros, Souvenir d'un futur radieux, édition Chandaigne Lima, et encore Enfant des bidonvilles, une autre histoire des inégalités urbaines, la dispute édition. Estamos praticamente a terminar esta primeira hora de Passagem Nível neste domingo, dia 27 de julho de 2025. Emissão, lembro, com redifusão na noite terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Pois bem, andamos no baú da Rádio Alfa. Vamos voltar a 1993. Aqui o que vamos ouvir faz parte da compilação Johnny Guitar, precisamente este ano, 93. Trata-se dos Peste e Sida, que são uma banda de rock portuguesa, ou era uma banda de rock portuguesa, constituída no verão de 1986. E a canção que escolhemos talvez tenha sido de propósito, nunca se sabe, não é? Pois bem, o título é Caso Crónico.
És um caso crónico, crónico. És um caso crónico, crónico. És um caso crónico, crónico. Para pagar o fisco, deitas-te cedo, não corres nenhum risco. 9 às 5, agarras o futuro. Fica-te bem, muito bem dando duro. És um bom rapaz, tem de tudo, é certinho. Mas tens pouca sorte, vais acabar sozinho. Porque a ti tanto te faz, a ti tanto te faz, a ti tanto te faz. Porque és um incapaz. És um caso crónico. És um caso crónico. És um caso crónico. Crónico. O dedo no anel garante estabilidade. Deitas fora e desprezas a tua liberdade. Perdes a vida entre livros e cursos. Passas o tempo ao pó com os ursos. Trancas-te em casa.
casa, evitas sarilhos. Infetas a mulher, contaminas os filhos. Tens na vidinha tudo bem planeado. E tens essa cara de idiota chapado. Porque a ti tanto te faz. A ti tanto te faz. A ti tanto te faz. Porque és um incapaz. És o caso crónico. És o caso crónico. És o caso crónico. Crónico. Incapaz. A ti tanto te faz. A ti tanto te faz. A ti tanto te faz. Porque és um incapaz. A ti tanto te faz. A ti tanto te faz. A ti tanto te faz. Porque és um incapaz. A mim tanto me faz.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível, neste domingo, dia 27 de julho de 2025. Mais um livro, vai ser assim até o fim. Enfant de Bidon, aliás, peço desculpa, Les Portugais en France, une immigration invisible, point d'interrogation, 20e et 21e siècle, Cavalier Bleu édition. Et connosco, entrevista gravada, relembro, Sonia Ferreira, antropóloga, e que foi uma das coordenadoras desta publicação com Irene dos Santos. O que é este livro e quais os objetivos? Pois bem, para já, é uma síntese das investigações realizadas desde de 1970 e tem como objetivo tornar visível uma emigração em massa de massa aqui para a França entre 1970 e 1990.
A Sonia Ferreira é antropóloga e publica um artigo, já leremos a ele, a partir da página 73, Les médias portugais lusophones, ethnogénèse de la portugalité, entre guillemets, en France. Bom, mas para já vamos a este livro. Uma coisa certa é que este livro talvez venha preencher uma lacuna, é que, apesar da importância do número de imigração portuguesa em França, não existia nenhuma publicação de síntese nomeadamente pluridisciplinar, sem esquecer igualmente que do lado francês as ciências sociais também não se interessam lá muito sobre a questão, não é?
Sim, esse foi aliás o motivo que nos levou a pensar esta obra. Ela nasce de um encontro anterior no quadro universitário, num grupo de pesquisa que eu e a minha colega Irene dos Santos coordenamos, que já tinha precisamente este título da imigração portuguesa em França. Exatamente como colocamos aqui, o Pensée, les Pensées. E a ideia era precisamente tentar trazer para o diálogo, até com outros colegas que estudam outros grupos migrantes, discutir um bocadinho porque é que as ciências sociais em França parecem interessar-se tão pouco pela migração portuguesa. E foi então no quadro dessa discussão que pensámos que seria interessante fazer uma obra de síntese, porque de facto havia alguns números de revistas especializados, havia, enfim, obviamente todas as publicações têm sido feitas a título individual, mas pareceu-nos que seria interessante, importante mesmo, fazer uma obra que fosse uma obra de síntese, que talvez permitisse abrir as portas a uma discussão mais vasta, não só no seio da academia, da universidade, mas também fora dela.
Alfredo, no que diz respeito à dita imigração invisível, conheço entre aspas, um dos primeiros trabalhos, se eu estou bem recordado, foi de Albano Cordeiros, data já dos anos 1990, salvo erro da minha parte.
Sim, é verdade. Nós partimos precisamente dessa discussão e desse conceito do paratonner maghrébin, que foi proposto pelo Albano Cordeiro, que faleceu recentemente e a quem nós até dedicamos a obra, que foi, enfim, uma personagem crucial, vamos dizer, nos estudos na área da sociologia sobre a imigração portuguesa em França, que coloca precisamente essa questão, até que ponto a imigração portuguesa que chega nos anos 60 e 70, ao mesmo tempo que chegam estes fluxos migratórios do Norte de África e da África subsaariana, nomeadamente mesmo no contexto pós-colonial francês, até que ponto a migração portuguesa acaba por ficar de alguma forma ao abrigo de uma certa, vamos dizer, proteção, no sentido de ser entendida como católica, ou ser percebida como branca, etc., por oposição a estas populações, acaba por ser vista como uma espécie de população modelo, etc., o que a invisibiliza nesse sentido, por não ser considerada problemática ou não estar associada a problemas de integração na sociedade francesa. E, portanto, nós questionamos um bocadinho esta, não é o questionar, mas tentamos trazer esta discussão sobre o que é esta invisibilidade. Por um lado, como é que ela acontece, e por outro lado, até que ponto é que podemos dizer que é invisível, na realidade, uma população que tem uma presença quantitativa bastante expressiva. E, portanto, como é que podemos olhar para isto? Como é que podemos olhar para isto do ponto de vista histórico? Aliás, o livro começa precisamente com o artigo do Vítor Pereira, que, aliás, a primeira parte do livro é sobre a questão da representação da migração portuguesa. Começa com esse artigo que tenta mostrar como é que, de facto, a imigração portuguesa é vista em França, mesmo no tempo anterior aos anos 60 e 70, e depois passa para essa discussão a partir dos meios de comunicação social também. Mas, portanto, o livro pretende trazer esta discussão de como, de que forma é que os migrantes portugueses também têm sido vistos e percebidos na sociedade francesa, mas também como é que eles próprios, né, se percebem, como é que eles próprios se veem, como é que eles próprios se representam. E tudo isto ao abrigo destas discussões, que são discussões também políticas e dos modelos de integração da sociedade francesa, e como é que os migrantes portugueses também devem e podem ser vistos também por comparação ou em diálogo com as outras populações migrantes presentes em França.
Sónia Ferreira, precisamente relativamente a essa dita integração, fácil ou não fácil, daí talvez o facto das ciências sociais francesas não se interessarem pela imigração portuguesa, mas a imigração portuguesa foi alvo de racismo, de xenofobia, de violências. Um certo número de portugueses foram assassinados por racistas. É como isso nunca tivesse existido, de uma certa forma?
Sim, exato. Há toda essa questão quando falamos nessa invisibilidade, no sentido da minoria modelo ou da boa integração, acabamos por ocultar muitas coisas, nomeadamente toda a discriminação, né, todos os processos de discriminação aos quais as populações portuguesas foram também sujeitas, e isso fica invisibilizado. E não deveria estar invisibilizado, seria importante estudá-lo, não só pelo que aconteceu junto das populações migrantes portuguesas, mas também junto de outras populações, num quadro, de facto, de discriminação racial que se estendia a várias populações migrantes e que acaba também, de alguma forma, por exemplo, invisibilizar o próprio papel político que a migração portuguesa também esteve em França, nomeadamente o seu envolvimento em movimentos sociais, nomeadamente movimentos sociais antirracistas, como foi o caso da participação portuguesa nas marchas da Convergence 4x4, e portanto há uma ideia de migrante português como apolitizado, como um migrante que não se envolve na vida política, etc., quando isso não é totalmente verdade. E portanto, não só nessa geração das marchas antirracistas, mas também já nos anos 60 e 70, com a presença dos exilados políticos em França, e portanto há também o envolvimento em lutas operárias, em sindicatos, etc., e portanto há uma grande invisibilização também sobre essa participação política e cívica dos portugueses, alguma no combate precisamente às questões da discriminação racial, entre outras, né, em todo tipo de discriminações.
Sónia Ferreira, eu gostava que abordássemos agora dois aspectos do seu artigo. Lembro o título: Les médias portugais lusophones ethnogenèse de la portugalité, entre guillemets, en France. Relativamente ao seu artigo, comecemos sobretudo nos anos 1960-1970, o papel central da imprensa, nomeadamente a imprensa militante também.
Uhum. Assim, na realidade, essas primeiras análises sobre a imprensa militante em França, que são feitas pela Marie-Christine Golovitch Tavares e pela Cristina Clímaco, depois há um texto mais recente do Vítor Pereira que atualiza de alguma forma o recenseamento que é feito dessas publicações, e é um pouco extraordinário quando nós pensamos que naquele pequeno espaço de tempo há tantos títulos, não é? Estamos a falar de mais de 100 títulos, nem todos tinham um caráter politizado, ou seja, mas a maior parte eram. Alguns já estavam ligados, de facto, a algumas organizações. Há também a questão da presença portuguesa, não é? Ligada mais aos movimentos católicos, mas é verdade, é que parece um pouco incrível como é que houve uma proliferação tão grande de títulos nesse período. Mas ele também, isso também revela a grande diversidade da presença em França de grupos que estavam ligados depois também em Portugal, a grupos políticos, não é? Específicos, a movimentos políticos específicos, e que depois em França, em alguns casos, vão associar a movimentos políticos franceses, que é o caso da Gauche Prolétarienne. Mas eu próprio, quando comecei a trabalhar sobre isto, fiquei bastante surpreendida com estes números, mas que são bastante interessantes para perceber algum dinamismo e alguma efervescência que se vivia nesse período.
Sónia Ferreira, vamos agora a outro período, os anos de 1970-1980, e aí entramos na paisagem radiofónica, e evidentemente a Rádio Alfa também está presente nessa paisagem.
Sim, a Rádio Alfa, enfim, que acaba por se tornar uma rádio, né, ainda hoje, de referência para a população migrante em França, sim, que surge primeiro, né, tínhamos aquelas rádios, que o movimento, né, radiofónico também era bastante, bastante ativo e bastante diversificado, e que a partir de um determinado momento, devido à legislação francesa no que diz respeito aos meios de comunicação social, têm que entrar num processo de legalização. Pronto, e aí começa a reduzir-se bastante este panorama radiofónico. E a Rádio Alfa tem uma história própria. Aliás, eu não a estudei em profundidade, há outros colegas que o fizeram, mas é interessante como se passa, né, de rádios, num movimento mais de rádios comunitárias, e depois, por motivos, enfim, seja de sobrevivência financeira, etc., que aliás não é apenas o que acontece com a Rádio Alfa, acontece com outros meios de comunicação social, acabam por se tornar aquilo que nós vemos hoje como privados, não é? E portanto têm um proprietário e passam a ter outro estatuto. No caso da Rádio Alfa também é interessante a forma como depois os próprios meios de comunicação social têm que se adaptar à contemporaneidade, ao digital, e portanto vai criando um conjunto de segmentos, né, que lhe permitem também atingir um público mais vasto, nomeadamente fora do próprio da própria França, né, e portanto lhes permite chegar até à própria diáspora portuguesa através de outros suportes tecnológicos.
Sónia Ferreira, uma referência ainda ao seu artigo tem a ver agora com a televisão e médias numéricos. É uma fase qualitativa que se acrescenta àquilo que já existia ou é substitui ao que existia?
Pronto, eu acho que isso é uma grande... é uma discussão complexa. Eu acho, acima de tudo, que por um lado... talvez haja alguma complementaridade, porque a facilidade com que alguns meios já aí que nascem, não é? No seio do digital, vão conseguir, lá está, chegar a outros públicos e, nomeadamente, deixam de estar restringidos. Por exemplo, como o Arthur sabe melhor que eu, não é? Mas no caso da rádio havia uma série de imposições quando as rádios eram criadas, tinha a ver com os horários de funcionamento e com a potência das antenas que permitiam chegar a regiões bastante limitadas, não é? Por exemplo, Paris, Paris e arredores, outras zonas de França, etc. E o digital vem um pouco revolucionar isso, porque de repente algumas dessas barreiras deixam de existir. Mas não estou completamente de acordo que haja uma oposição. O que me parece que aconteceu é que muitos dos meios de comunicação social que nós poderíamos catalogar como mais tradicionais, aliás, como é o caso da Rádio Alfa, acabaram por se adaptar também e, portanto, começam, em muitos casos, a funcionar em suportes diversificados, ou seja, por um lado garantem um público que era um público que estava habituado a formas de relacionamento enquanto ouvintes específicas e, portanto, mesmo com o tipo de aparelhos, etc., e talvez outro tipo de públicos que mais facilmente aderem às novas tecnologias e que aproveitam as potencialidades que elas tenham. Mas o que me parece é que há uma adaptação dos meios, vamos dizer assim, de comunicação social mais tradicionais, e depois, claro, que vão surgindo aquilo que se fala de uma certa democratização no acesso aos meios de produção, o que permite que pessoas que não teriam poder económico e para ter tecnologias, que era o que era preciso antigamente, né, pesadas e caras para produzir, passam a fazê-lo de forma mais fácil. Mas parece-me que vão ocupar também muitas vezes, vamos dizer assim, talvez... em alguns casos, determinados nichos, não é? De espectadores, de interesse, há uma segmentação também, depois também dos interesses e dos públicos.
Les Portugais en France, deux points. Une immigration visible, point d'interrogation, 20e et 21e siècle, le cavalier bleu. Edition. Depois de termos falado ali português em França e imigração invisível, um grande ponto de interrogação, faremos agora de outro livro. Europa Transfigurada, Heranças Coloniais e Restituição, foi realizado por Margarida Calafate Ribeiro nas edições Afrontamento. Vale a pena precisamente falar deste livro porque finalmente muita coisa há a dizer, que é um livro que incide particularmente em três países europeus, Portugal, França e Bélgica, que tiveram colónias, as independências não foram pacíficas e hoje na Europa esquece que foram colonizadores e voltam o problema ao contrário, como agora se pode ver, ao que parece, eles é que seriam os colonizados hoje.
Este livro trata exatamente das gerações seguintes, não é? Ou seja, aquelas pessoas que hoje têm 50, 60 anos e que estão a produzir e que são sujeitos políticos de são europeus e sujeitos políticos de determinadas situações e que são herdeiros de alguma maneira, têm uma memória africana através de muitas vezes das suas famílias ou pura e simplesmente porque encaram, por exemplo, que a história da França é uma história, ou a história de Portugal ou da Europa colonizadora é uma história que trespassa completamente os limites territoriais da Europa, não é? E que, portanto, de alguma maneira, o processo de descolonização com a grande movimentação de pessoas brancas, negras, muçulmanas, cristãs, etc., que vieram para a Europa na sequência dos movimentos de descolonização, transformam e transformaram a Europa, foram, digamos, os sujeitos, em termos de corpos até, que fazem com que a Europa passe de um continente colonizador para um continente pós-colonial. Os efeitos desta pós-colonialidade, digamos que demoram a ser visíveis, não é? A ser produtivos do ponto de vista não apenas político, mas também cultural, e nós estamos nesse momento e, portanto, a Europa Transfigurada é um livro que trata desse momento extremo contemporâneo que nós estamos a viver e que está a colocar muitas, muitas questões. Há o contrato historiográfico sobre o qual nós vivemos, muitas questões sobre a museologia, o que é que está nos museus europeus, muitas questões sobre os programas até do ensino e sobre a própria política, as políticas públicas que estão em marcha, não é? Até que ponto é que contemplam a atual Europa, portanto um continente extremamente diverso, como aliás sempre foi, mas que inclui também muitas pessoas que têm uma memória africana, vamos dizer assim, não é? Ou aquilo que eu chamo pós-memória, ou seja, de pessoas que já não viveram nada desses processos, mas que de alguma forma são herdeiras desses processos através das suas famílias, das suas histórias, etc.
Mas, finalmente, seria necessário, bom, talvez seja um raccourci, como dizem os franceses, seria necessário construir uma democracia com memória?
Exato, quer dizer, a democracia é, e nós vemos isso em toda a Europa, é um processo, não é? É um sistema político realmente que é sufragado quase todos os dias pelos cidadãos e pelas cidadãs dos vários países, não é? E uma democracia com memória, aquilo que eu chamei de democracia com memória, é aquela que contempla os vários lados da história e as várias memórias dessa mesma história. Porque é evidente que um neto, um filho de um pied-noir, por exemplo, no caso francês, não tem a mesma memória de um filho de argelinos que vieram para a França na sequência da descolonização, mas, por exemplo, ligados ao movimento de libertação, ou um filho da Arqui, ou uma filha da Arqui, não é? São memórias muito diferentes de uma situação histórica que muitas vezes é descrita de uma forma relativamente homogénea, não é? E quando falo de uma democracia com memória, é justamente termos não memórias compartimentadas, mas as memórias possíveis e audíveis de todas estas pessoas, para que a partir dessas memórias possamos construir uma democracia com futuro e com memória, e não com tantas fraturas, não é?
Vou citá-la, penso não estar errado, sermos capazes de olhar para o que está a acontecer e não para uma Europa que já não existe.
Sim, nós enquanto europeus, sobretudo europeus brancos, temos de facto uma nostalgia de uma Europa grande colonizadora, não é? Com uma grande expressão ultramarina, no caso de Portugal, da França, da Bélgica, do Reino Unido, por exemplo, não é? Ou Holanda, temos de facto uma expressão muito grande do ponto de vista ultramarino, mas temos também outros modelos europeus na Europa, não é? Na Europa Central, por exemplo, estamos a assistir, aliás, com a guerra da Ucrânia, a esse tipo de imperialismo, não é? Que ainda sobrevive muito vivo na zona da Europa, que chamamos Europa de Leste, não é? E portanto são estes modelos imperiais europeus que hoje em dia creio que estão em profunda discussão, não é? E a nossa capacidade de olharmos para a Europa de hoje, para os sujeitos políticos da Europa de hoje, não como pessoas compartimentadas que vêm daqui, vêm dali, vêm de lá, mas como, por exemplo, sujeitos negros portugueses, não é? Ou sujeitos de memória argelina franceses, é, digamos, um crescimento da nossa capacidade de construir uma democracia sobre o presente e não sobre uma nostalgia do passado.
Eu vou citar, está na página 115, são palavras de Nelson Mandela: uma história feita sem nós é uma história contra nós.
Exato, é por isso que eu lhe falo de uma história que envolva todos os sujeitos políticos das várias situações, não é? Ou seja, com os ex-colonizadores e com os ex-colonizados. Para falarmos assim de uma maneira muito genérica, não é? Do que é que estes grandes grupos contêm. Nelson Mandela dizia muito isso relativamente à África do Sul, não é? Que a história da África do Sul era uma história que não contemplava a sua maioria, que eram os negros, não é? Toda a história relativa ao apartheid. E, portanto, que era importante que essas pessoas não só se inscrevessem nessa história, como a reclamassem, não é? E a questão aqui é de facto a questão das heranças. As heranças são coisas que nós temos em nós, mas que só as ativamos se as reclamamos, não é? Porque é uma escolha muito pessoal e pode ser também uma escolha política se for uma escolha de um grupo maior, não é? Essa questão que levanta do racismo, não há dúvida que na Europa a grande herança da Europa colonial é o racismo atual, não é? Quando nós vemos, por exemplo, no 25 de abril de 2019, um conjunto de rapazes negros a desfilar com uma inscrição que dizia: o 25 de Abril nasceu em África, Essas pessoas estão a inscrever a sua cidadania portuguesa através das lutas de libertação que os seus pais protagonizaram e que levaram ao 25 de Abril. E nessa medida estão a inscrever a sua identidade portuguesa, que é diferenciada da minha, por exemplo, não é? Na memória festiva do 25 de Abril. E eu creio que esses passos políticos são passos muito importantes, exatamente para nós percebermos que a questão de europeu branco é uma história que acabou, não é? É uma história que tem, de facto, uma ideia de um universalismo imperial que já não existe, não é? Ora, mas que tem repercussões muito fortes ainda, não é?
No seu livro fala-se igualmente a nível da literatura. Isso é bastante importante porque, bom, em Portugal havia dificuldades em aceitar, precisamente essa literatura chama-se lusófona, mas enfim, é um olhar, bom, estou a pensar agora em Miacoto, mas Agulhosa, bom, quer dizer, Angola, Moçambique e por aí fora, o olhar, precisamente, dos intelectuais, dos escritores, desses países relativamente à história e a factos. E no seu livro isso também analisado, bom, fala-se nisso, isso é um ponto importante para sabermos de onde viemos e onde estamos e para onde poderemos ir?
Sim, a arte é sempre muito, não só um movimento muito emancipador, como também muito de vanguardista em relação às problemáticas sociais que estão no terreno, não é? O artista consegue, de facto, fazer isso, captar muitas vezes, ou até antecipar questões sociais que estão em ebulição, não é? E é nessa medida em que eu, que além de sou de estudos literários, eu não sou historiadora, na minha base é estudos literários, olho muito para os processos artísticos, nomeadamente para a literatura. Quando nós falamos de um Miacoto, de um José Eduardo Agualusa, de um Pepe Tela, nós estamos a falar de pessoas que são africanas, com vivência no continente africano e que estão, por exemplo, este ano a celebrar os 50 anos das independências, não é? Pronto, é uma história diferente da história da descolonização, sendo a mesma, a outra face da moeda, não é? Mas é uma história diferente, com memórias muito diferentes. A memória das independências é uma memória eufórica, não é? Constrói um novo país, vai para a Revolução Socialista, etc. Com todas as distopias que depois acontecem, com as guerras e tudo mais. Mas a memória da descolonização é uma memória de perda, não é? A memória portuguesa, a memória europeia da saída da África, digamos, é uma memória de perda, não é? E nessa medida é muito fraturante para muitos sujeitos. E portanto, o que eu capto aí na literatura é aquilo que hoje em dia está a emergir muito, hoje, enfim, desde os anos 2000 está a emergir muito na literatura europeia, que são pessoas que têm, que escrevem a partir de tópicos e de memórias e de realidades e de ficções, etc., que recuperam essas outras, essa outra história da Europa passada fora dos limites da Europa, não é? São afro-europeus, são negros, mestiços, europeus, e que, portanto, por exemplo, no caso, por exemplo, da Jaimila Pereira de Almeida, introduz novas personagens na literatura portuguesa. Estou a falar, por exemplo, da personagem principal do Luanda Lisboa Paraíso, que é um assimilado. É um assimilado, é um homem do Império, que vem do Império e que chega a Lisboa e, como assimilado, fala muito bem português, conhece toda a história de Portugal e espera que Lisboa o vá acolher. E Lisboa, de facto, não o acolhe, porque ele não é entendido como parte de, não é? Portanto, todos os seus papéis que provavam que ele era português, afinal, são uma fraude, não é? É uma fantasmagoria, de alguma maneira, não é? E, portanto, esta, por exemplo, é uma personagem nova na literatura portuguesa, não é? E muitas outras ficções que, por exemplo, no caso da literatura francesa, se passam entre França e Argélia. Não são pessoas argelinas, são pessoas francesas, mas que têm uma memória argelina e, a partir daí, escrevem sobre os mais variados temas. Ora, isto está a transformar a literatura europeia no seu cânon mais clássico, vamos dizer assim, porque está a introduzir não só novos autores, mas também novas personagens, novos espaços, espaços transnacionais em que se passam muitas das ações, e a mesma coisa podemos dizer na parte artística, por exemplo, das artes visuais ou da música, que é sempre um espaço de grande vanguarda e de grande mistura, não é? E portanto é um pouco observar estes anos 2000 como aqueles em que essa transformação é muito efetiva, não é? E não estou só a falar de afrodescendentes negros, também, por exemplo, de filhos de ex-combatentes nas guerras, não é? tanto no caso francês como no caso português, que estão a escrever sobre isso, sobre pais entraram em casa e que não conheceram, não é?
Mas, Margarida Clefato Ribeiro, se me permita, porque cita precisamente um caso, tem pessoa que foi em Bolonha, porque é responsável também da cátedra.
Eduardo Lourenço.
Uma aluna. Que aliás fez uma intervenção assim durante uma aula, um curso, e que, a propósito precisamente do seu pai, que tinha sido um antigo combatente, e que havia um silêncio enorme, quer dizer, e aí voltamos à questão da memória, por exemplo, porque isso é bastante importante, porque algo, parece que houve ali parece que esqueceu centenas de milhares de soldados portugueses que passaram pela guerra colonial, pessoas com problemas psíquicos gravíssimos, estropiados e por aí afora, e esse depoimento, ou essa afirmação desse jovem aluno, deu-lhe para refletir.
Sim, foi um momento muito particular, foi no meu curso de doutoramento na Universidade de Coimbra, não foi em Bolonha,
foi
na Universidade de Coimbra, no âmbito do doutoramento pós-colonialismo e cidadania global, e essa aluna tinha como função, nessa aula, apresentar dois poemas do Manuel Alegre sobre a nossa guerra colonial. E antes quis fazer um depoimento sobre o que era para ela a guerra colonial, uma pessoa nascida já nos anos 80, não é? E a guerra colonial era realmente uma coisa que não se falava, mas que se transmitia por um pai extremamente complexo e violento até em casa, não é? E que ela desde criança tentou perceber o que é que tinha acontecido, não é? A grande pergunta dela era sempre, mas o que é que aconteceu neste país para isto? E a outra pergunta seguinte era, então, e os outros meninos? Não têm pais que foram para a guerra? Isso não existiu na sociedade portuguesa, não é? Porque houve, de facto, um grande silêncio pós-descolonizações relativamente tanto aos ex-combatentes como aos próprios retornados, como houve um grande silêncio em relação à Argélia, e nós vemos que ela emerge todos os dias, não é? Basta até acompanhar a imprensa francesa para vermos a quantidade imensa de questões, com muitas variações, que estão aí. Ora, que impedem, digamos, uma relação normal com a Argélia. E a mesma coisa nos acontece também, as coisas vão-se passando mais ou menos bem, mas há sempre vários incidentes, não é, que têm a ver muito com essas memórias que não foram contempladas e que, de alguma forma, as pessoas se sentem enganadas, traídas, qualquer coisa, e isso foi transmitido para as gerações seguintes, não é? Porque não foi dada a explicação, não foi contada a história nas suas várias facetas, não é? E, portanto, é isso que nós, por exemplo, na arte, hoje em dia, vemos muito, não é? E estamos a falar de pessoas que nasceram quase todas anos 80, anos 90, não é? Nós estamos a falar de testemunhas diretas, não é? E pessoas que passaram diretamente essas problemáticas, que foi de facto, no caso português, uma fratura imensa, não é? É o fim da ditadura, é o fim do império, é a descolonização, é o início da liberdade, é depois eleições livres, quer dizer, é de facto uma coisa imensa, não é? Num curtíssimo espaço de tempo e com as independências a acontecer todas ao mesmo tempo também, não é? À exceção da Guiné, que tinha feito da sua independência unilateral, a sua declaração de independência unilateral, todas as independências, no caso de Portugal, por exemplo, se dão em 75, não é? Ora, isto não acontece noutro país europeu e isto tem as suas repercussões, não é?
Margarida Clefato Ribeiro, muito obrigado. Uma última questão, porque tenho feito um trabalho imenso relativamente à mulher. A mulher, a memória, as antigas colónias, relativamente a essa questão, à memória das mulheres, não só das que ficaram em Portugal, das mães que ficaram, que os filhos morreram, das viúvas e por aí afora, é um aspecto importante dessa memória das mulheres em Portugal que está por fazer ainda.
É uma memória que está a ser agora revisitada e valorizada, sobretudo, não é? Porque eu fiz um primeiro trabalho que se chama África no Feminino, em 2007, as mulheres portuguesas e a guerra colonial, que mostrava, para mim era uma interrogação muito grande, porque eu tinha trabalhado no meu doutoramento o romance da Lídia Jorge, Costa dos Murmúrios, que é um romance que trata justamente dessas mulheres que foram com eles ou que foram ter com eles e que estavam na guerra, portanto, de alguma forma normalizavam uma guerra, porque ir para a guerra em família é uma coisa um bocado diferente de ir para a guerra só os homens, não é? E sempre me interroguei, até porque sou dessa geração e, portanto, tenho muitos amigos que ou nasceram em África ou os pais estiveram em África por causa da guerra e tal, sempre me interroguei o que é que era feito dessas senhoras, o que é que elas pensavam, o que é que elas tinham vivido, e percebi com elas que a memória da guerra, particularmente a memória da guerra no caso português, estava a ser muito transmitido e corrigido por elas, não é? Intimamente, na casa familiar, não é? Para explicar alguma disfunção do pai, para explicar alguma revolta, etc, etc. E, portanto, sempre me interessou bastante esse lado. E, felizmente, hoje em dia, nós temos já uma quantidade razoável de trabalhos que falam também das mulheres do outro lado, não é? Das mulheres que estiveram nos movimentos de libertação e que estiveram em situações clandestinas, mas também combatentes, e outras que estiveram cá em Portugal e que viveram essa ausência, digamos, muito refletida depois também nos filhos, não é? E, portanto, eu penso que agora estamos a ver, a começar a assistir a esse movimento de novos estudos sobre a questão das mulheres e a guerra, das mulheres e a descolonização, etc. E são histórias e memórias bastante diferentes, obviamente, do lado masculino. E, portanto, é tudo isso que eu penso que é muito interessante estudar e revelar para percebermos de onde é que nós vimos, não é? De onde é que nós, afinal, emergimos? De onde é que emergiu a nossa democracia?
Margarida Calafate Ribeiro, muito obrigado. Lembro, Europa Transfigurada, Heranças Coloniais e Restituição, publicado pelas edições Afrontamento.
Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada, foi um prazer.
E estamos na reta final deste Passagem Nível, domingo, dia 27 de julho de 2025. E agora vamos falar de um livro. O livro foi publicado em 2018, é importante reter esta data, porque Lisboa sofreu uma transformação profunda, aumento desenfreado do turismo, especulação imobiliária, alojamento local e por aí fora, e as classes populares foram obrigadas a deixarem os bairros onde viviam, dois exemplos, a Alfama ou ainda a Moraria. Mas enfim, voltemos ao livro. Portugal tem múltiplas influências de povos que aí viveram, e isto encontra-se também no vocabulário e na arquitetura. É uma realidade que nos passa às vezes despercebida. Lisboa é um exemplo disso, e nós temos um bom guia, o autor deste livro. Quero-me referir a Marc Terrisse, que começou por nos explicar qual foi a gênese deste livro.
É um récit d'écrivain voyageur, on pourrait dire. Donc la genèse, c'est qu'à la base, moi je suis spécialiste des musées, en lien avec l'archéologie. Je me suis intéressé au patrimoine arabo-musulman, notamment en Provence, en Languedoc, en France, à travers justement l'archéologie et la façon dont cet héritage était présenté dans les musées. Et par la suite, j'ai souhaité élargir un petit peu mon champ de recherche à l'histoire et le patrimoine des minorités arabes dans le monde occidental. Et Lisbonne m'est rapidement apparue comme un objet de recherche naturel, parce que pour moi, c'est la ville la plus orientale d'Europe occidentale, pour le coup, notamment en raison de sa douceur de vivre qui la caractérise et de certains aspects qui ont toujours rappelé le Maghreb, voire le Proche-Orient chez moi. Donc je souhaitais exhumer ce passé arabo-musulman, mais aussi montrer comment cette histoire se développe sur le long terme jusqu'à aujourd'hui, à travers des populations musulmanes qui vivent actuellement à Lisbonne, à travers un patrimoine, à travers un patrimoine matériel aussi, la gastronomie et la musique. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un guide historique et le récit d'un écrivain voyageur, on va dire.
Alors, tout à fait. Alors, il faut dire que quand on parle de la culture musulmane au Portugal, arabo-musulmane, pendant 5 siècles, justement, ils ont vécu au Portugal pendant 5 siècles, et les gens ont tendance à oublier ça.
Ils ont vécu pendant 5 siècles dans le sud du Portugal, à Lisbonne, c'est 4 siècles et demi, et même au-delà, parce que Lisbonne a été une ville musulmane de 714 à 1147, mais après la reconquête, les musulmans sont restés à Lisbonne jusqu'au 15e siècle, et il y a encore des musulmans aujourd'hui à Lisbonne, puisqu'il y a une communauté qui est forte de plus de 42 000 membres, avec une mosquée, avec aussi une fondation pour les Ismaéliens, la fondation de l'Agacan, qui va avoir son siège mondial à Lisbonne. Et donc, il y a toute une histoire sur le long terme. Mais c'est vrai que le passé historique arabo-musulman est un petit peu après, pendant la période des temps modernes, du 12e siècle jusqu'au 15e siècle, 16e siècle, a été un petit peu oublié, même si aujourd'hui, il y a une renaissance en cours. On le voit dans les programmes scolaires, on le voit aussi au niveau d'associations qui organisent des visites liées à ce patrimoine, à cette histoire qui est présente, qui est visible dans la ville et qui est en train d'être valorisée, notamment à travers l'archéologie.
Et finalement, cet héritage, parce qu'il y a un héritage... On va y venir, hein, parce que bon, donc je me suis promené dans ma ville grâce à vous, j'ai découvert des choses, hein, je vous avoue franchement, mais c'est vraiment un oubli, ou est-ce que finalement on a essayé de mettre sous le tapis, je pense à l'expression, un certain passé qui fait partie de nos racines, quelle est votre analyse ?
Alors, pendant la période de la dictature, très clairement, c'était un oubli volontaire, mais on retrouve ça aussi dans d'autres pays. Il fallait créer un roman national auquel la majorité pouvait s'identifier, et le roman national commence à partir de Fonsenrix, donc Alphonse Henri en français, le premier roi du Portugal, et c'est vrai que ce qu'il y avait avant, alors je parle aussi des Phéniciens dans le livre, qui ne sont pas les populations musulmanes, mais qui sont les populations qui viennent du Proche-Orient et qui ont occupé un rôle important pendant l'Antiquité à Lisbonne, la population aussi arabo-musulmane, ou plutôt l'influence musulmane sur le sud du Portugal, ont été un peu occultées parce qu'il fallait effectivement trouver des mythes. Hein. Donc les mythes, ce sont les Lusitaniens, comme ce sont les Gaulois en France, les Ibères en Espagne, ou d'autres héros sortis de l'Antiquité ailleurs. Ça peut être les Carthaginois, par exemple, en Tunisie. Donc il fallait créer une unité nationale, sentiment d'identité nationale à travers les mythes, et les Phéniciens et les Arabo-musulmans et les musulmans de façon générale étaient exclus de ces mythes, parce que c'est vrai que le Portugal, dans son histoire, s'est construit à la fois en parallèle mais aussi en opposé, je dirais, par rapport notamment au Maroc et au Maghreb. Il y a eu des contacts fructueux, des occupations des deux côtés. Il y a eu aussi des guerres, et si on lit par exemple les Lusiades de Camoens, on voit bien qu'il y a, par rapport au contexte de l'époque, cette volonté de se différencier justement de l'islam, et que les ennemis de l'époque c'était les musulmans. Donc tout ça s'explique, si vous voulez, à travers un roman national qui devait se constituer sur d'autres héros. Mais aujourd'hui les choses sont en train de changer malgré tout.
Il y a une promenade à Lisbonne, mais pas seulement au Maroc aussi, parce que on oublie parfois que le Portugal et le Maroc ont maintenu pendant des siècles des relations, et d'ailleurs les Portugais sont partis assez tard de Mazagan.
Alors, peut-être... Oui, tout à fait. Tout à fait, effectivement. Alors les Marocains sont venus quelque part à Lisbonne et au Portugal, mais les Portugais aussi sont les premiers à être allés dans le monde arabo-musulman, hein, puisque 1415, c'est la prise de Ceuta. À l'époque, l'Espagne, par exemple, n'était pas encore complètement unifiée. Et à partir de là, il y a eu différents comptoirs qui ont été ouverts au Maroc, et notamment celui de Mazagan, qui va perdurer jusqu'au la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et donc Mazagan, c'est cette... petite terre portugaise, finalement, puisque c'est une forteresse, hein, pratiquement. Enfin, il y a une ville fortifiée qui a une superficie minime, qui va quand même faire des échanges avec l'arrière-pays musulman, mais qui effectivement témoigne de la présence du Portugal pendant longtemps au Maroc. Et le Portugal a aussi influencé le Maroc, puisque dans le dialecte marocain, on retrouve beaucoup de mots d'origine portugaise, comme d'ailleurs on retrouve beaucoup de mots d'origine aussi arabe en langue portugaise. Donc il y a une influence réciproque. Alors, c'est pas toujours très connu au niveau des Marocains, ils ne connaissent pas trop ce passé, mais effectivement, ça fait partie des liens un peu indéfectibles entre les pays. Il y a aussi la bataille des Trois Rois, donc en 1578, qui a joué un rôle très important avec la défaite de Don Sébastien à l'époque, et qui marque, on va dire, la fin du rayonnement du Portugal, qui va être par la suite intégré au royaume d'Espagne jusqu'en 1640. Donc on a un destin entre Portugal et Maroc qui est très lié aujourd'hui, d'ailleurs, avec des relations d'amitié qui sont très fortes entre les deux pays. Hein. Par exemple, c'est ce que je dis dans le livre, le Maroc a prêté des canadaires au Portugal lors des feux de forêt. Il y a aussi un centre culturel luso-marocain, l'ancienne Mazagan, donc, qui s'appelle Ajdida maintenant. Et ces liens sont aussi un témoignage de cette histoire croisée.
Et d'ailleurs, Mazagan, ça a été préservé. Donc, ça veut dire que du côté marocain, bon, ils ont un lien aussi avec l'histoire ancienne. Alors, on parle justement des influences, des choses qu'on a ça dans notre ADN, je pense, l'expression. Alors, justement, quand on parle de l'héritage arabo-musulman, au niveau de la culture à Lisbonne. Gastronomie, poésie, musique, la langue, les sciences, l'art, la navigation, il y a de quoi faire, hein?
Oui, oui, il y a de quoi faire, effectivement, mais on va prendre un plat que beaucoup de Portugais connaissent, qui s'appelle migas, qui on parle aussi en espagnol de migues, en occitan, ce sont les migues, la mique. Donc c'est un plat, en fait, qui est originaire du Maghreb, voire même du Proche-Orient, qui se rapproche du couscous, hein, mais il y a aussi, effectivement, de nombreuses influences dans la langue, hein, quantité de mots qui sont issus de l'arabe, la musique également, et puis il y a aussi un patrimoine matériel qu'on peut découvrir à Lisbonne, hein, c'est ce dont je parle dans le livre, à travers les réseaux de sites archéologiques, à travers l'enceinte aussi mort, mais qui est visible par endroits avec des panneaux d'explication. Il y a aussi le château Saint-Georges, il y a aussi le musée national d'archéologie, le musée du Carme où il y a des restes qui évoquent la présence des Mozarabes, qui sont des chrétiens, donc il y avait des chrétiens à l'époque, sous la coupe musulmane. Donc il y a beaucoup de petits éléments, souvent liés à l'archéologie, qui permettent de reconstituer ce puzzle qui est en cours, je dirais, de réinterprétation et de fabrication. Hein, donc il y a beaucoup d'éléments qu'on peut découvrir dans le livre, à travers aussi des visites qui évoquent d'autres histoires de Lisbonne, qui vont permettre aux visiteurs de se familiariser, de mieux comprendre cette histoire. Et puis, effectivement, comme je l'ai dit, après la conquête de 1147 d'Afonso Henriques, il y a des populations musulmanes qui perdurent. D'ailleurs, au début, il y avait une certaine harmonie entre ces populations juives, musulmanes et chrétiennes. Puis avec, on va dire, la constitution des États nationaux, des États modernes, effectivement, il y a des libertés pour les musulmans qui sont moins importantes. Et la plupart d'entre eux, au XVe siècle, ont quitté le Portugal. Mais il y a une nouvelle vague qui arrive, justement en lien avec le Maroc. Ce sont les Mouriscos, qui, eux, sont des musulmans, souvent originaires du Maroc ou d'autres colonies portugaises, qui s'installent à Lisbonne. Certains, d'ailleurs, sont issus de familles nobles, puisqu'ils ont aidé le Portugal. Il y avait des alliances, hein, avec les souverains portugais au Maroc et des nobles locaux contre des rivaux potentiels marocains. Donc, une certaine famille, puisque le Portugal a perdu du terrain, vont devoir s'exiler à Lisbonne. Il y a des familles importantes, parfois pour... on va trouver peut-être une situation égale à ce qu'ils imaginaient. Donc, il y a toute une histoire aussi qui est liée à ça. C'est dans le quartier de la Moravie, donc... parle aussi dans le livre. Et puis par la suite, comme je disais, au XIXe siècle, des témoignages architecturaux avec l'architecture néo-mauresque, par exemple la Casa do Alentejo, qui est typique de cette période, avec une réinterprétation de l'architecture mauresque au XIXe siècle dans un cadre un peu romantique. Et puis vous avez la mosquée de Lisbonne, la Fondation Aga Khan qui fait des expositions. Donc il y a beaucoup de choses sur le long terme liées à cet héritage matériel, immatériel. Et dans le livre, bon, je m'efforce de faire des itinéraires en fonction des époques et qui permettent de découvrir la Lisbonne musulmane, effectivement, puis au-delà, les liens entre cette histoire musulmane et l'histoire contemporaine du Portugal.
Lisbonne dans la ville musulmane, Macateris, édition Chandagne et Lima, et lembro, date de 2018, com tudo isso implica. E chegamos ao termo desta emissão do dia 27 de julho de 2025, é a última da temporada 2024-2025. Desejamos uma boas férias a todos, a começar igualmente pelo Manuel Alexandre, e para terminar vai ser música quinta do Bill, o tema Voa. Como tenho o hábito de dizer, bem-ajam, até sempre.
Difícil de encontrar, o canudo vive a esperar. acordei e não podes quebrar o destinado ofício da vitória. A fobia de um monólogo que insistes em partilhar. Mas não entendes porquê. Mas não entendes.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.